notre podcast Protège ma promesse. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de notre saison historique, je reçois le père Combeau, prêtre dominicain, historien et spécialiste de l'histoire du scoutisme. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le scoutisme, même aussi de romans scouts. Et votre dernier ouvrage en date s'appelle « Toujours prêt, histoire du scoutisme catholique en France » aux éditions, rappelez-moi,
Du Cerf.
Et je voulais vous répondre avec vous à cette question, comment est né le scoutisme catholique en France, donc vraiment s'intéresser aux premières années de ce mouvement. Le scoutisme est devenu catholique et français via la figure du Père Sauvin, c'est souvent l'image qu'on en a, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les premiers groupes qui se sont formés en France ?
Alors c'est une aventure très très étonnante qui a lieu dans une époque qui n'est plus la nôtre puisqu'on est avant la guerre de 14 et qui est une aventure très désordonnée comme on peut s'y attendre et qui n'aboutira, puisque je vais dire la fin avant de dire le début, qui n'aboutira qu'en 1920 par la synthèse réalisée sous le nom de Fédération des Scouts de France. Le scoutisme, je rappelle, donc, a été fondé par Baden-Powell et il est arrivé en France comme l'éclair, à peine quelques mois plus tard, à cause de la grande curiosité des journalistes pour cette expérience qui avait été largement médiatisée outre-Manche. Et les premiers à s'en saisir sont tantôt des laïcs au sens politique du terme, tantôt des protestants que leur proximité avec la Grande-Bretagne rend sensible à ces propositions-là, notamment le pasteur Gallienne qui est méthodiste, c'est-à-dire qui appartient à une confession protestante d'origine anglaise, et pasteur Gallienne qui est réputé avoir créé le premier groupe protestant en France et un des premiers groupes scouts de France. Et aussi les catholiques. Alors tout ça se fait tout à fait en désordre, c'est-à-dire ce n'est pas l'église institutionnelle qui s'intéresse au scoutisme en tant que tel, ce sont des initiatives provenant de laïcs ou de clercs, et à une époque où le petit monde disons de l'éducation de la jeunesse est en pleine ébullition. Voilà. Il faut se rappeler, donc on est avant la guerre de 14 ou pendant la guerre de 14, 5% des jeunes Français accèdent au baccalauréat. C'est très très peu. L'immense majorité d'entre eux travaillent à partir de l'âge minimal autorisé qui est 13 et puis ensuite 14 ans. Et la plupart poussent jusqu'au brevet des études et puis ensuite entrent dans une carrière commerciale. L'apostolat envers les jeunes est en retard. Il est en retard pour des raisons tout à fait compréhensibles, la crise anticléricale et certaines incertitudes, et une crise similaire ou un retard similaire dans l'éducation publique, puisque, en théorie, les garçons et les filles sont encore en uniforme à l'école, marchent encore deux par deux, tête baissée, en regardant les lignes au milieu des couloirs, au son du tambour. C'est ce que je vous raconte là, c'est le collège jésuite de la rue de Madrid à Paris en 1915. Et il y a une vraie recherche, une frustration et une vraie recherche. Le modèle éducatif imposé à partir du début du XIIe siècle sur des lycées de très forte discipline, où les garçons et les filles, surtout les garçons, sont traités à la fois comme des petits, au sens où on leur impose une discipline quasiment chorégraphique, et comme des grands, au sens où on les appelle messieurs, et on ne prend pas du tout en considération la spécificité adolescente. Absolument pas. Quelque part aux alentours de 12 ans, on passe d'une enfance qui traîne à un âge adulte, on se déguise en petits messieurs, on porte la cravate, en fait. Et on voit bien que partout en Europe, de l'Ouest du moins, il y a des tentatives pour dépasser cela. Alors, en Allemagne, il y a un mouvement très intéressant dans l'université, avec la redécouverte de la marche à pied, du pèlerinage, une spiritualité très dépouillée, un mouvement liturgique qui va avec, dont la grande figure sera le jésuite d'origine italienne Romano Guardini. En Grande-Bretagne, ça va faire le sport, puisque les vieilles public schools très aristocratiques avaient conservé des pratiques de sport qui venaient du Moyen-Âge et qui se répandent dans la population, le football, le rugby et bien des variantes. Et une certaine idée que l'écolier, l'étudiant, s'épanouit aussi par le sport et par la vie d'équipe. Alors, vous me direz, ça semble très loin de nos préoccupations françaises. Pas tant que ça. les collèges catholiques et les patronages catholiques, qui sont très nombreux, dans les paroisses ou les patronages congréganistes, quand ils existent encore, parce que je vous rappelle qu'on est en pleine crise anticléricale, donc la plupart sont fermés, se demandent aussi comment renouveler leur méthode. Ils avaient des propositions à l'égard des adolescents qui étaient des propositions de type adulte, c'est-à-dire des cercles de piété, des réunions régulières, la pratique fréquente de l'Eucharistie. Ils avaient des propositions à caractère sportif, mais peu nombreuses et peu hardies. Le maximum qu'on proposait à un gamin d'un quartier populaire de Paris, c'était de se baigner dans la Seine, quelque part entre Alfortville, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire là, aujourd'hui, il y a des péniches et des usines. Et la dissociation était presque totale entre les activités spirituelles, les activités de formation intellectuelle et les activités physiques et sociales, on va dire. Ce qui est d'ailleurs souvent encore le cas dans le monde catholique oriental. Quand je dis oriental, je pense au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient, notamment au Vietnam, où vous avez d'énormes associations de type catholique, souvent rattachées à l'action catholique, où en fait les activités sont totalement étanches. Vous jouez au foot comme des sauvages, et puis tout d'un coup, vous vous rhabillez, vous vous peignez, vous avez droit à une heure de catéchisme, si on rentre dans l'église, à pas oufter. Bon, c'est un peu dur, hein, pour un gamin. Et donc, beaucoup d'éducateurs catholiques, laïcs ou clercs, essayent d'imaginer de nouvelles méthodes. Et la proposition d'origine anglaise et protestante de Baden Powell rencontre un écho immédiat et extrêmement rapide en France. Donc, les premiers groupes catholiques datent de 1911, c'est-à-dire extrêmement tôt. Ils sont un peu difficiles à identifier parce que le grand mouvement des scouts de France a, de façon tout à fait normale, élaboré un récit fondateur simple, pour être facile à retenir. Et ce récit fondateur ne tient pas du tout compte d'expériences qui rentrent mal dans le cadre des futurs scouts de France. Je m'explique. Vous avez des créateurs laïcs et clercs qui envisagent le scoutisme comme Baden-Powell l'envisageait lui-même, c'est-à-dire une activité d'éducation qui a une dimension philosophique, civique, personnelle, qui a une dimension spirituelle si l'on veut, mais qui n'est pas confessionnelle. Et cette nuance est très importante. Vous avez par exemple une tentative qui est faite très tôt à Paris au patronage du Moulin Vert, qui se trouve près du siège de l'Homme Nouveau, rue du même nom, et par un prêtre de très grande réputation. Le patronage est catholique mais ouvert à tous. Les confrères sont tous catholiques, avec une pratique quotidienne, ce qui est fort rare en 1913, mais c'est ouvert à tous. Et donc le groupe scout qui naît, le groupe du Moulin Vert, qui va durer fort longtemps, est lui-même dirigé par des catholiques très ardents, comme André Lefebvre, vraiment un des fondateurs du scoutisme en France, qui est un tertiaire franciscain et qui va communier à la messe tous les matins à Saint-Médard, sa paroisse, mais qui n'est pas, le groupe du Moulin Vert n'est pas confessionnel. Et vous avez des tentatives similaires de la part de laïcs qui sont présidents d'associations propriétaires d'écoles. Vous avez la même chose de la part d'instituteurs et d'enseignants dans les lycées publics. Vous avez aussi l'autre formule qui est « je crée une instance catholique pour des jeunes catholiques ». Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Parce qu'enfin, Baden-Powell, son récit initial, c'est le récit d'une expérience. Et la première chose que fait un éducateur, c'est évidemment de relire l'expérience et de se demander si c'est adaptable au contexte social dans lequel il évolue, et aussi si c'est compatible ne serait-ce qu'avec la morale chrétienne. Exemple, jouer aux pirates au fond des bois, est-ce bien compatible avec la morale évangélique? Alors, il y a des centaines de milliers d'anciens scouts en France qui répondront d'un seul cœur « Oui !» Mais en réalité, en 1913, c'était pas si clair que ça. Et donc vous avez des adaptations où en fait on enlève la dimension ludique. Des adaptations assez nombreuses où on enlève la dimension nature. Pourquoi? Parce que on trouve que Baden-Powell repose trop sur l'interaction du jeune avec la nature et pas assez sur l'interaction du jeune avec l'adulte. Autrement dit, que Baden-Powell compte sur une auto-éducation du jeune au contact de ses homologues et au contact de la nature. Or, ça, en morale catholique, ça s'appelle le naturalisme. Et c'est une grave déviance. Alors, je sais bien que ce mot peut surprendre nos auditeurs, mais naturalisme, c'est quand on pense trop que la morale serait naturelle, émanerait de l'être humain, de la création, et pas assez que la morale est surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle est portée par l'Esprit Saint, qu'elle est portée par Dieu. Et donc on accusait Ben Powell de naturalisme. Et on l'a accusé longtemps. Il y avait aussi ceux qui acceptaient assez volontiers les concepts de base de Ben Powell, mais qui, puisque la guerre de 14 éclate sur ces entrefaites, ont beaucoup militarisé leurs unités naissantes. À dire vrai, j'en ai trouvé beaucoup qui étaient à l'origine des groupes de préparation militaire. Par exemple, je pense que les scouts de France de la 130e Paris à Notre-Dame-de-Grâce de Passy, d'aujourd'hui, seraient bien étonnés si on leur disait qu'ils sortent d'une société de préparation militaire qui s'appelait l'éclaireur de Passy, qui était attaché à la paroisse et qui faisait de la préparation militaire avec du parcours du soldat, etc. Et j'ajoute que les garçons étaient ravis. On faisait porter des fusils en bois, on faisait ramper dans les fossés comme leur père. Ils étaient ravis. Mais du coup, la dimension proprement scout disparaissait, parce qu'il y a toute une gratuité du jeu chez Ben Powell qui n'existe pas dans la préparation militaire. Il y en a d'autres qui voulaient que le chef fût un prêtre. Alors dans le monde catholique, c'est très fréquent. En réalité, nous autres les prêtres, nous sommes un peu toujours le patron. Alors bien sûr, nous délégons, on est en pleine démarche synodale, enfin tout ça, mais la réalité, c'est que c'est nous le patron. Et quand c'est pas nous le patron, ça marche pas. Je sais que je vais me faire taper dessus par... Or, dans le scoutisme, ce qui est très clair chez Ben Powell, c'est que le chef, c'est un laïc. Et c'est pas du tout, de la part de Ben Powell, un défaut de foi, lui-même est un croyant. Son idée, c'est que le chef est laïque et il est aussi croyant. Mais le chef est d'abord un grand frère et non pas un père dans tous les sens de ce terme-là. Alors, cette dimension-là a été peut-être la plus difficile à faire admettre. Et il y a beaucoup de groupes scouts catholiques qui se constituent où le directeur de l'œuvre, comme on disait à l'époque, est un prêtre et n'est personne d'autre que le prêtre. Et ses assistants, quand il y a des assistants, sont des jeunes gens qui sont en fait à peine sortis de la troupe, qui sont extrêmement jeunes, beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui ont 16 ou 17 ans, et qui ont une relation à lui qui n'est pas du tout une relation de collaboration, mais une relation de subordination. C'est la formule la plus fréquente. C'est la formule qui domine dans presque toutes les expériences primitives. Alors, quelques lieux, quelques dates. J'ai dit que les premières tentatives catholiques, encore très informes, c'est environ 1911. Les premiers groupes vraiment constitués qui auront une histoire, c'est 1913. Les premiers groupes qui vont contribuer à la fondation des groupes des scouts de France, c'est 1915. Au patronage de Notre-Dame-du-Rosaire à Paris, et simultanément dans un très grand patronage niçois, avec deux prêtres, le plus connu des deux est l'abbé d'Andréis, qui connaissent l'expérience tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'Anglais sur la Côte d'Azur, et donc il y avait déjà des groupes anglais. Et ça les intéresse, ça les inspire. Et ça marche très fort. Alors c'est intéressant parce que le patronage de Nice, qui s'appelait le patronage Pogliani, offre précisément toutes les variantes que j'ai soulignées tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que c'est le prêtre qui est le directeur de l'œuvre ou pas ? D'Andréis avait de bons collaborateurs laïcs, mais c'était quand même lui le patron. Alors évidemment, c'était un patron un peu lointain, parce qu'à un moment, il y a eu énormément de scouts à Pogliani. Et donc, cette association qui s'appelait les Éclaireurs des Alpes ne pouvait pas être dirigée personnellement par l'abbé. Est-ce que c'est une association d'évangélisation ? Oui et non, parce que le patronage Pogliani s'adresse à tous dans une société qui est très très largement catholique, mais où beaucoup d'enfants n'ont pas de pratique particulière, notamment dans les milieux des peuples populaires. Or, on ne cherche pas à faire l'éducation catholique de ces enfants. En revanche, les aînés des Éclaireurs des Alpes font de la préparation militaire. Arrêtez, ils sont calqués sur les chasseurs alpins, d'où leur nom. Donc, ça veut dire qu'il y a des aînés et des cadets. Ça veut dire que la troupe comme telle n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de patrouille. Voilà. Même chose, non pas dans les tout premiers essais français, où en général on avait lu Ben Powell et on mettait en place ce qui allait devenir la patrouille, mais dans un groupe qui naît en 1917 et qui aura une postérité très longue, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est le groupe dit Saint-Louis, fondé par un prêtre, un chanoine qui est vicaire de la très grande paroisse Saint-Honoré-des-Lots dans le 16e, le chanoine Cornette.
Avec Paul Cause.
Alors c'est tout à fait Intéressant. C'est exactement comme sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire que le petit Paul Cause, dont le père a beaucoup voyagé et qui a vécu en Égypte, a été scout là-bas. Et lorsqu'ils sont rentrés, à cause non pas de la guerre, mais parce qu'il fallait qu'ils rentrassent, il a passé quelques mois sur la Côte d'Azur où il a pu retrouver des scouts. Il arrive à Paris, il n'y a rien de tel. Plutôt, il y a des scouts, mais dans son quartier, en tous les cas, il n'y a pas d'initiative catholique. Il s'adresse au père Cornette, à l'abbé Cornette, qui ne connaît rien au scoutisme, du tout. Jamais entendu parler. Père Cornette est directeur du patronage paroissial de Saint-Honoré-d'Eylau, par intérim, qui plus est, parce que son homologue était parti à la guerre. Alors, il dit, oh, ben, je vais me renseigner, et il contacte un prêtre anglais qui enseigne à l'école Gerson, prêtre catholique anglais, l'abbé Schooner, et l'abbé Schooner dit, bah, écoutez, monsieur l'abbé, lisez Scouting for Boys, j'ai reçu ça, c'est pas mal. Comme quoi, c'est absolument prodigieux de penser que, par le hasard, d'avoir un anglais dans son agenda, il y a un gamin qui sort de nulle part, l'Égypte, et qui vous demande à faire. Ils étaient tout petits, les Causes, à l'époque. Il y avait Paul et son frère Marcel. Ils étaient tout petits. Et Cornette se dit, ben, pourquoi pas, on va essayer. Alors, une patrouille, deux patrouilles, les premiers compagnons. Ensuite, il faut embaucher des chefs. En fait, ce patronage avait pour aînés des étudiants qui se prenaient pour des petits messieurs et qui ont manifesté beaucoup de mépris envers le scoutisme naissant. Ils ont été convertis petit à petit. Le plus ardent et le plus anti-scout était celui qui sera le premier commissaire général des scouts de France, c'est-à-dire Édouard de Macedo. Et d'autres qui cherchaient un peu l'aventure et ils ont expérimenté. Alors ils ont expérimenté maladroitement. Il y avait un côté très scout dans la première année. Et ensuite le chanoine Cornette et surtout le curé, qui était pourtant un homme très ouvert, très bon, c'était le chanoine Solange Boudin, trouvaient que ça faisait un peu débraillé de se promener en foulard et en vareuse. Et donc ils les ont remis en cravate. Ils ont arrêté de camper. Ils campaient plus. L'été, ils allaient dans la colonie de vacances que Saint-Honoré-d'Eylau possédait à Cabourg, je crois, ou à Trouville, et ils étaient sur la plage, mais ils campaient pas. Et la patrouille n'existait virtuellement pas. Il y avait bien en théorie des chefs de patrouille, mais en fait la patrouille ne fonctionnait pas. C'était le chef de troupe qui faisait tout. Voyez l'état très expérimental, en fait.
Et après, c'est le père Sevin qui a récupéré toutes ces initiatives pour hiérarchiser et pour organiser.
Oui et non. Alors, vous avez lâché un nom très très important. Donc le père Sevin, c'est un jeune jésuite. Comme tous les jésuites, puisque nous sommes en pleine crise anticléricale, il est forcé de faire ses études à l'étranger, en l'occurrence en Belgique. Et il a une grande chance, c'est qu'il parle l'anglais. Il s'intéresse au scoutisme, qui connaît en Belgique le même succès qu'en France, mais de façon très éclatée, comme en France. Et il imagine donc un scoutisme, et comme lui a pu lire Baden-Powell et assez rapidement rencontrer les responsables anglais, puis Baden-Powell lui-même, il est beaucoup plus au fait de la méthode scout que ses homologues en France. Donc il crée d'abord des groupes à Moucron, qui est une ville frontalière belge, à côté de Lille, et puis pendant la guerre, étant rentré semi-clandestinement, à Lille même, ça sera la 9e île, et dans quelques années plus tard. Le père Sevin a très très tôt l'idée de constituer un mouvement national, il n'est pas le seul. L'abbé d'Andrieux a déjà déclaré des statuts. Le père Sevin n'est pas loin, le père, pardon, le chanoine Cornette n'est pas loin de le faire. Et puis il y a d'autres initiatives. Je ne vais pas parler de tout, mais il y a d'autres initiatives. Certaines laïques, par exemple. Il y a déjà un mouvement qui existe, qui s'appelle les Éclaireurs de France, qui est un mouvement qui est neutre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que le mouvement ne se détermine pas, mais chaque unité doit effectuer un choix clair. Donc vous pouvez être membre des Éclaireurs de France, être sans confession ou être confessionnel. En fait, c'est la méthode anglaise. Donc vous avez chez les Éclaireurs de France des troupes qui sont entièrement catholiques et qui appartiennent à un mouvement national tout à fait reconnu par le ministère, etc. Et Sevin, qui est très très actif, très dynamique, se met en cheville avec les responsables catholiques à Paris, avec l'abbé d'Andrieux à Nice, avec Louis Faure, qui est au Creusot, qui est à l'époque une grande ville industrielle, et avec quelques autres, et disent « il faut qu'on bâtisse une fédération nationale ». Tout le monde dit « oui ». C'est la seconde étape qui est plus compliquée. Alors, elle est compliquée pour deux raisons. D'abord, parce que institutionnellement, c'est pas très facile, parce que l'accusation de naturalisme, la promotion des laïcs comme chef de l'unité et comme premier responsable de l'évangélisation du jeune, l'autonomie du jeune au sein de la patrouille, tout ça était assez difficile à avaler pour toute une partie du clergé.
Il y avait aussi l'accusation de franc-maçonnerie.
Oui, mais celle-là est arrivée tard et elle était vaine.
D'accord.
Je ne saurais pas aller plus vite. Je vous en parlerai si vous voulez plus en détail, parce que c'est assez rigolo. Mais en réalité, ça fait du bruit dans les journaux, mais ça n'avait aucune consistance. Et Ben Paul n'était pas franc-maçon, il était comme tous les militaires, membre de sociétés enfin, anglaises, c'est un autre monde que la France. Son père était pasteur, je le rappelle quand même. Bon, donc, le second point de difficulté, c'est qui aura autorité sur le mouvement. Si je déclare une association nationale catholique, qu'est-ce que je fais par rapport aux éclaireurs de France qui existent déjà et qui sont déjà reconnus par le ministère? Qu'est-ce que je fais par rapport aux évêques? C'est pas rien, un évêque en 1917, c'est une puissance. Etc. 3. Lequel des fondateurs va l'emporter sur les autres? Alors je sais que c'est très humain, mais par exemple, Andréis, son grand malheur, s'il n'a pas été le grand patron, c'est qu'il a été mobilisé. Il est parti pour la guerre, où il s'est conduit admirablement du reste. Quand il est rentré, ben, on ne lui a pas trop donné son avis, c'était trop tard, il était démobilisé en 19 comme tout le monde. Le Percevin et donc quelques acteurs français. Jean Cornette, un peu en second plan, c'est un bon diplomate, mais au fond, c'est pas un homme de grande organisation, on va dire. Mais quelques autres qui sont beaucoup moins connus, qui sont des Parisiens, comme l'abbé de Grangeneuve, l'abbé Durand, tout ça, c'est des noms qui sont oubliés aujourd'hui. Mais par exemple, la loi scout a été co-rédigée par Percevin et Grangeneuve. Voilà, puisque moi j'ai les brouillons de Grangeneuve qui contiennent des phrases entières de la promesse en vue d'une réunion avec le Percevin. Le grand point du Percevin, et c'est là qu'il faut reconnaître son génie quand même, le grand point du Percevin, c'est de dire, et de dire à ses collègues, nous ne devons pas altérer la méthode. Nous devons respecter la méthode Ben Powell. Oui, il est audacieux de faire reposer la responsabilité d'un mouvement catholique sur des jeunes chefs laïcs. Je suis d'accord. C'est le cœur de la méthode. C'est-à-dire qu'on contribue aussi à l'éducation du chef comme tel. Oui, nous devons les faire camper et vivre dans la nature. Et oui, un garçon qui sort de la forêt, ça sent pas très bon, mais ça va beaucoup mieux dans sa tête. Ça, c'était pas très évident. Oui, tous ces points de méthode qui étaient très novateurs ont été très difficiles à admettre. Certains des premiers fondateurs, comme l'abbé de Grangeneuve, qui lui aussi parlait anglais, étaient tout à fait convaincus de ça. Mais d'autres refusaient des quatre fers. D'Andréis lui-même était assez ambigu sur la question. Et donc il y a eu des débats très durs, très silencieux, très calmes, très, très amicaux du reste, parce que ces gens-là sont d'excellents gens, mais sur le fond très durs, avec des menaces de claquer la porte, etc., pour trouver une synthèse et définir ce qu'était le scoutisme catholique, trouver une position par rapport aux autres mouvements scouts, sachant que l'idéal spontané, d'une part c'est la mentalité française, d'autre part c'est ce qui se passait en Grande-Bretagne, c'était un mouvement unique à sous-entité confessionnelle, ce que les évêques n'auraient jamais admis, d'avoir une direction laïque non chrétienne sur une direction nationale laïque non chrétienne sur des entités locales chrétiennes, les évêques ne l'auraient jamais admis. Sur le leadership au sein de l'association et sur l'adaptation des textes de Ben Powell en fonction du public catholique auquel il s'adresse. Et ce dernier point est évidemment celui qui est le plus important rétrospectivement. Percevin a tenu bon, il était soutenu par certains, il a un peu froissé d'autres, mais il a tenu bon. Parmi les premiers fondateurs, le père de Blinière, de Boissière, pardon, qui était un de Boissieu, ça y est, j'y suis, parce que je confonds la rue Boissière, qui est le siège de Saint-Louis, du groupe Saint-Louis, et le père de Boissieu, qui était l'aumônier de Saint-Louis. Le père de Boissieu, qui était dominicain, n'a absolument pas accepté la rédaction de la promesse par le Percevin et l'abbé de Grangeneuve, il a claqué la porte. Et en 1919, lors des négociations, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Alors c'était vraiment un des fondateurs du scoutisme. Il y en a d'autres comme ça. Il y a vraiment eu des choix presque déchirants de gens qui sont approchés la future fédération nationale et qui ont dit non, finalement, j'y vais pas. Et à l'arrivée, donc, on a ce texte de la promesse auquel Percevin, ça encore, c'est un coup de génie, donne une valeur extrêmement haute. Ce que fait Ben Powell, c'est de dire. Je promets devant Dieu parce que de toute façon, je suis dans un monde britannique où Dieu fait partie de la vie quotidienne des sujets britanniques, quelle que soit leur confession. Je peux appartenir à une secte méthodiste un peu délirante ou être mainstream dans l'Église d'Angleterre. De toute façon, Dieu est toujours là. Le roi aussi. Donc on promet d'être fidèle à Dieu, au roi, etc. Ce que fait Percevin, c'est assez différent. Il dit, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, je m'engage à. Ce faisant, il transforme ce qui est un simple engagement, je veux dire, de bon niveau, le texte de Ben Powell est beau, mais ce qui est un simple engagement en ce que nous appelons dans la théologie catholique un sacramental. un quasi-sacrement. Il y a très peu de sacramentaux, l'adoubement du chevalier, les vœux religieux et la promesse. Et donc, demander l'aide de Dieu, demander ce que nous appellerions dans un langage plus adulte sa grâce, son Esprit Saint, c'est non seulement progresser humainement sous le regard bienveillant de Dieu, mais c'est progresser spirituellement en vue de la sainteté, puisque c'est à ça que servent les sacrements et les sacramentaux. C'est tout à fait beaucoup plus ambitieux que la proposition de Baden Powell. Beaucoup plus. De même, en matière morale, la loi de Baden Powell, à l'anglaise, elle compte aussi 10 articles, est intéressante, mais elle est très pratique, elle est très quotidienne. Lorsque Baden Powell dit le scout est l'ami de tous et le frère de tous les scouts, il l'entend comme une relation de service mutuel et de camaraderie qui peut éventuellement être relativement profonde, mais qui est d'abord le moyen de maintenir un corps social de jeunes cohérent. Et quand Sevin dit frère, il dit frère au sens chrétien. Quand il dit ami au sens chrétien, au sens évangélique. C'est-à-dire que ce n'est pas le service mutuel, c'est le don de soi. Pas du tout du même niveau. Et donc, l'adaptation est légère, les formules se reconnaissent tout à fait entre l'anglais et le français, mais le sens de chacune de ces formules est beaucoup plus grave en français qu'en anglais.
C'est le sens des mots, en fait, qui oui. a pris, qui s'est qui christianisé, a changé.
En fait, c'est ça. C'est donner aux mots leur sens chrétien, en modifie la dimension. Alors, j'ajoute, hein, je brûle les étapes, que Baden Powell sera absolument ravi de ce que les Français auront fait. Il faut préciser ça quand même, hein, parce que lui, il a fait en fonction de ce qu'il croyait possible à son époque, mais et dans son contexte. Mais l'interprétation spirituelle des Français l'a ravi. Il était très heureux de... Ce qui l'embêtait, c'est que les Français n'aient pas réussi à faire un mouvement unique, mais ça, c'est une autre question. Et la proposition, donc, dès l'origine... Elle est très claire dans sa visée proprement catholique. Le scoutisme est une méthode d'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne est un appel du jeune à la sainteté. Rien de moins.
C'est la spécificité du scoutisme catholique.
C'est la spécificité du scoutisme catholique. Le scoutisme protestant a une forte dimension spirituelle, mais de dire les choses aussi fermement, c'est fixer comme but à l'éducation chrétienne la sainteté, et de dire le scoutisme est une méthode d'éducation chrétienne, et pas simplement une méthode d'éducation personnelle qui peut compléter une éducation chrétienne, ça c'est proprement scout catholique et français.
Et donc on voit toute l'évolution des différents mouvements vers cette fédération autour du Père Sevin. Quelles sont les autres grandes figures qui ont tourné autour de lui pour faire tout ce travail de christianisation?
Alors Sevin est un solitaire. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup d'intuitions de Sevin qui ne sont que de lui, dont on ne connaît pas la source. Bien sûr, il y a d'autres jésuites autour de lui qui s'intéressent beaucoup à la question de l'éducation des jeunes, et notamment de l'éducation au milieu populaire. Le tout premier local de ce qu'allait devenir les scouts de France, c'était le local d'une œuvre dirigée par un jésuite, le père Desbucquois, qui était une œuvre d'éducation populaire. Vous avez donc des sources de réflexion, mais il y a quelque chose quand même d'un peu un instinct, je dirais, spirituel, très profond et assez unique chez le Père Sevin. Alors, autour, les fondateurs sont l'abbé d'Andréis, comme je l'ai dit, même si en fait il s'est joint en fait un peu en frais dans les quatre fers. Mais il s'est joint à la nouvelle association. Mais ça a été très long, parce qu'en fait, lui-même a adhéré à titre personnel, mais pas ses scouts. Parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec le programme esquissé par Sevin. Il y a eu à Paris, c'est des groupes mythiques, qui ont été mythiques à une époque, donc Saint-Louis, première Paris, Notre-Dame-du-Rosaire, deuxième Paris, l'Immaculée Conception, troisième. Ce sont des groupes qui existaient depuis quelque temps déjà. Et puis des groupes qu'on a totalement oubliés, qui ont absolument disparu. Il y avait un groupe dans les écoles primaires publiques du 11e. Je rappelle qu'à l'époque, le primaire pour certains garçons, avec ce qu'on appelait le primaire supérieur, pouvait aller jusqu'à 14 ans. Qui étaient des groupes catholiques, avec des animateurs catholiques, des activités catholiques. Et dans les écoles primaires du 11e arrondissement, c'est un peu inattendu, parce que c'est un arrondissement très ouvrier, le 11e à l'époque. Et ça fait environ une quinzaine, une vingtaine de personnes pour le tour de table, et une dizaine de personnes, des prêtres et des laïcs, qui vont constituer le premier conseil d'administration.
Et vous parliez donc de ces difficultés à trouver une entente commune, mais il y a aussi la difficulté vis-à-vis de l'Église. qui a mis du temps à accepter ce mouvement en tant que catholique. Alors, vous parliez des difficultés avec les évêques.
Bien sûr. Alors, il y a des difficultés avec les évêques, et ces difficultés vont durer. Pour anticiper, le dernier évêque à lever la barrière sera l'évêque de Tulle en 1943.
Donc, très tard.
très, très tard. Et l'avant-dernier sera l'archevêque de Bordeaux en 40 ou en 38, je ne sais plus. Donc, il y a vraiment des réticences épiscopales très fortes. Qui sont d'ailleurs, en fait, comment dirais-je, un peu diverses.
Quelles sont les explications ?
Alors, je m'explique. Vous avez une réticence qui est minoritaire, j'ai dit tout de suite pour l'évacuer et l'oublier. Vous avez des évêques qui ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée d'un mouvement entièrement confessionnel, qui trouvent que le lien que font les fondateurs des scouts de France entre la spiritualité, l'éducation et la méthode scout est un lien artificiel. C'est intéressant. Ils lui reprochent d'être un lien artificiel. Et ils disent, non, moi je veux bien un mouvement d'éducation de type scout, mais ne lui donnez pas une ambition aussi forte, parce que je ne vois pas en quoi la sioule peut faire grandir le garçon. Alors, je pense que l'épiscope aurait dû lui-même faire une sioule ou deux, ça l'aurait décoincé, mais bon. Et ces évêques-là disent, moi je veux bien du scoutisme, mais pourquoi le confessionnaliser ? Ça paraît très paradoxal, hein. Et donc vous avez tout un réseau d'évêques, notamment dans l'ouest de la France, qui a fait adhérer ces groupes aux éclaireurs de France, donc à ce mouvement non confessionnel. Notamment en Bretagne, ce qui peut nous surprendre. Vous avez d'autres évêques qui disent, moi je suis tout à fait pour que les jeunes catholiques encadrent des jeunes, mais j'aimerais bien que ce soit ouvert à tous. Ce sont des évêques qui sont souvent très liés à ce mouvement de réflexion religieuse et sociale du début du siècle qu'on appelle le Sillon. C'était une tentative de catholicisme social très brillante autour de la belle figure de Marc Sangnier. Le Sillon a été condamné par Rome pour des raisons, à mon avis, un petit peu rapides. Et Sangnier a obéi, bien sûr. L'association a été dissoute, mais ça avait eu une énorme influence sur les jeunes séminaristes de l'époque. Le nombre de fondateurs des scouts de France qui sortent du Sillon est considérable. Et puis, ça c'est l'opposition, je dirais, minoritaire. L'opposition épiscopale majoritaire, c'est pas de naturalisme. Il est hors de question que les garçons soient dévariés. Des garçons en culotte de cour dans le métro, ça va pas. Des garçons qui se battent, ça va pas. Des chefs de patrouille qui ont 15 ans, à l'époque ils avaient 15 ans. Mais ça certainement pas. Des messes célébrées en plein air, c'est hors de question. Tout ça est démoniaque, tout ça est franc-maçon, puisque les polémistes ne se privaient pas de rappeler que pour eux, tout ce qui était anglais était protestant, franc-maçon, et probablement le sous-texte homosexuel. Donc bon, forcément, oui, non, parce qu'il y a des non-dits. Hein. Et donc, beaucoup d'évêques ne voulaient pas, ils ne voulaient juste pas. Alors, ils voulaient bien admettre quelque chose qui s'appelait scoutisme, parce que c'était à la mode, on en parlait dans les journaux, mais à condition que ça n'ait plus rien de scout. Et il y a des tas de tentatives de mouvements locaux, où en fait, les garçons ne sortent plus, ne campent plus, etc. Passent leur temps en conférence de piété, en service aux vieilles dames, c'est très bien, avec un uniforme vaguement scout et un foulard, mais ça s'arrête là. Et encore, pas toujours le foulard, parce que, comme je vous ai dit, ça fait débrayer. Et cette opposition-là est très forte. Le point d'accroche, pour moi, c'est moins la question de la franc-maçonnerie que la question de la responsabilité. La question de la franc-maçonnerie, elle est très annexe. C'est quelque chose qui a été sorti d'un chapeau par des polémistes catholiques d'une congrégation qui existe toujours, qu'on appelle les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont chargés de patronage, qui ont des très beaux patronages, et qui sont ce qu'on appelait à l'époque intransigeantistes. C'est-à-dire, c'est ce qui va nourrir intellectuellement, pas liturgiquement, mais intellectuellement, le futur traditionnalisme. C'est une position intellectuelle tout à fait légitime. Mais l'intransigeantisme a tendance à considérer que tout ce qui vient de la société civile est mauvais. En fait, ils en sont encore sur un rêve de restauration d'une société chrétienne. Encore une fois, tout ça est tout à fait défendable. Mais leurs moyens sont pas très bons parce que, c'est vrai que l'époque est violente, mais on oublie, hein, les années 1910, 1920, c'est des années violentes. Ils donnent dans la polémique très rapidement. Et donc, on a des factums rédigés par des religieux de cette congrégation ou par des prêtres de leurs amis qui sont envoyés au Vatican où tout ce qui est scouts de France ou futurs scouts de France est dénoncé comme étant franc-maçon, libéral, moderne, enfin, toutes les insultes de l'époque. Et cette opposition-là est puissante, mais elle reste, comment dire, elle est bruyante. Mais elle n'est pas forcément significative. La vérité, c'est que les évêques avaient beaucoup de mal à supporter que les directeurs des groupes ne fussent pas des prêtres. Et du reste, les scouts de France ont dû céder, parce qu'ils ont concédé un statut qui a été en vigueur très longtemps. Il y avait les groupes ouverts, qui étaient des groupes normaux, et les groupes fermés, qui étaient attachés à une institution, quelle qu'elle soit, une école, un patronage, etc., et qui étaient généralement une association autonome, filiale de l'Association des Scouts de France, dont le directeur, le président, était un prêtre. Et ces groupes dits fermés pouvaient être si particularistes qu'ils ne ressemblaient presque plus à des groupes scouts, bien qu'ils fussent inscrits aux scouts de France. Et c'était souvent ce qu'on devait concéder aux évêques ou aux responsables de congrégation pour obtenir la création d'un groupe.
Et comment l'adaptation s'est donc faite pour que l'Église le reconnaisse pleinement
Alors, le prodige, c'est que l'archevêque de Paris, entrepris par le père Cornette, Sean Cornette, qui, comme je l'ai dit, n'était pas forcément ni un très grand fondateur, ni un très grand politique, mais qui était un excellent diplomate. L'archevêque de Paris s'est immédiatement intéressé au scoutisme, et il a compris la proposition que lui faisaient les futurs fondateurs des scouts de France. Et il les a approuvés très tôt. C'était un petit peu rock'n'roll. Il y a eu un changement d'archevêque. Le cardinal Dubois a pris les commandes alors que l'évêque auxiliaire qui avait fait la jonction avait même interdit d'aumônerie le père Cornette. Il y avait de la violence dans l'église déjà à l'époque. Et Monseigneur Dubois, le futur cardinal Dubois, a immédiatement validé toutes les options du scoutisme naissant. Ça a beaucoup irrité l'opposition qui a fait monter ça au Saint-Office, comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire qui a donc dénoncé les scouts de France pour modernisme, ce qui était formellement une hérésie. Et là encore, un petit miracle, Pie XI reçoit les chefs des scouts de France, qui sont à l'époque le seul mouvement catholique national vraiment constitué. Il y a des tentatives en Italie, mais il n'y a que les scouts de France qui sont vraiment constitués officiellement. Et il légitime, dans une lettre très claire et très détaillée, toute la méthode des scouts de France.
En 1924.
Et donc, à partir de ce moment-là, l'opposition, elle existe toujours, mais elle a été, pour ainsi dire, circonvenue de façon définitive.
Est-ce qu'on peut, j'imagine que c'est surtout le Père Sevin qui en est à l'origine, mais trouver des textes fondateurs au scoutisme catholique?
Oui, alors, il y a beaucoup de textes fondateurs, mais ils sont difficiles à trouver. C'est-à-dire, le Père Sevin a beaucoup écrit, bien, et on trouve encore facilement de ses livres. Donc c'est évidemment ce sur quoi il faut mettre la main au plus vite. D'autres ont écrit des choses très intéressantes, mais qui n'ont pas été rééditées, qui n'ont pas eu la même fortune, je dirais, mémorielle. Hein. Vous avez des livres passionnants et très profonds de la part de fondateurs ou de la toute première génération du scoutisme, des livres de Pierre Delsuc, des recueils d'articles d'Odor de Macedo, je prends des laïcs, des témoignages de Lucien Goual, qui est un des tout premiers scouts français, en fait, qui était parisien. Vous avez beaucoup de documents comme ça qui n'ont jamais été réédités ou qui n'ont jamais même été publiés. Je pense que, par exemple, l'énoncé le plus profond, le plus clair et le plus, comment dirais-je, universitaire de la méthode scout n'est pas à trouver sous la plume de Sevin, qui n'est pas d'abord un intellectuel, qui a un instinct extraordinaire, qui est très bien formé, mais qui n'est pas d'abord un intellectuel, est à trouver sous la plume de l'abbé Lenoir, une thèse écrite en 1924, qui est extrêmement riche, très cohérente, très intelligente. Seulement voilà, elle a été imprimée comme une thèse peut être imprimée, en une centaine d'exemplaires, et l'abbé Lenoir est mort à la guerre de 40. Et donc depuis, plus rien. Et de même, quand on cherche à réfléchir sur ce qui s'appellera la route chez les scouts de France, on recourt au père Doncoeur qui n'a jamais été routier de sa vie. Alors que les grands auteurs de livres sur la route ont eux aussi connu... je sais pas comment dire, une éclipse mémorielle, l'abbé Joly, Pierre Schaeffer, etc., qui sont des auteurs remarquables. Seulement, la roue tourne, les éditeurs disparaissent un peu, bref, voilà.
Ils ont été oubliés. Et vous parliez tout à l'heure un peu du texte, notamment de la promesse et de la loi scout, qui ont été christianisés essentiellement dans les... Enfin, c'est les mots qui ont pris
oui,
un sens chrétien.
Fait.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont... des textes qui ont changé radicalement entre Baden-Powell et le scoutisme catholique?
Non.
Ils ont été gardés.
Encore une fois, il y a une légère adaptation. Il y a quelques articles, deux, trois articles de la loi dont la rédaction est sensiblement différente. Le sens est le même, mais Baden-Powell, son article 10, il dit en substance que le scout est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Et en fait, en français, on transpose le scout est pur dans ses pensées. Ce qui est beaucoup plus difficile.
Mais c'est les catholiques qui ont mis pur.
Oui, c'est nous qui avons mis pur. Oui.
Mais les premiers scouts, par exemple, qui n'étaient pas protestants ou qui n'étaient pas catholiques, ils avaient gardé
propre. Ils avaient des traductions littérales de Ben Powell, qui avaient été faites par un éclaireur de France, qui était le capitaine Royer. Une très bonne traduction.
Mais littérale.
Littérale, oui.
Donc c'est vraiment avec le christianisme que les...
Oui, et encore, le christianisme, il ne faut pas oublier la réflexion protestante, hein, qui est quand même sérieuse. Il y a des personnalités protestantes de tout premier plan qui se sont investies dans le scoutisme. Et puis, vous avez aussi, même chez les catholiques, des avis discordants. Par exemple, l'abbé d'Andréis aurait voulu qu'on gardât la loi de Royer, donc la loi traduite littéralement de Ben Powell, et il n'aimait pas du tout la loi de Sevin. Ordonnerie, c'était prêtre, un vrai pasteur, un animateur de patronage. Donc il y a eu beaucoup de débats.
Pour terminer, je voudrais évoquer l'organisation des premiers groupes scouts jusqu'à donc au moment de cette fondation de la Fédération des scouts de France. Est-ce qu'il y avait déjà toutes les branches? Est-ce qu'il y avait donc j'imagine déjà ce système des patrouilles, la hiérarchie.
Vous imaginez et vous avez tort. non, le scoutisme naissant est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors d'abord, la plupart des unités regroupent des garçons de 11 à 15 ans. Je rappelle que dans l'immense majorité des cas, 15 ans c'est la fin du cursus scolaire. Les groupes qui ont des garçons et puis des filles, hein, puisque les guides de France, bien sûr, vont suivre, pas tout de suite. Les filles se sont constituées vite, mais pas immédiatement. Il y avait des oppositions encore plus fortes, pour tout dire. Les groupes donc qui poussent leurs garçons au-delà de 15 ans sont des groupes d'école privée, qui en fait gardent leurs garçons jusqu'aux alentours du baccalauréat, donc jusqu'à 17 ans. C'est très rare. Ensuite, dans ce qui s'appelle déjà la troupe et la patrouille, le fonctionnement n'est pas toujours le même. Le chef est un jeune homme, ça, on est d'accord. Il forme donc un duo avec l'aumônier. L'aumônier est, selon les cas, selon le statut des groupes, fermé ou ouvert, et donc directeur ou pas directeur de l'œuvre, ce qui change beaucoup le statut du chef. Admettons que ce soit un groupe normal avec un jeune chef qui soit responsable. Ses assistants sont très jeunes. Alors, il peut avoir un copain de son âge pour l'aider, mais ses assistants sont très jeunes, ils ont 18 ans, voire 17.
Et donc le chef à quel âge à peu près?
Il peut avoir entre 20 et 25, voire plus.
D'accord.
Pour vous dire, les trois premières troupes de Paris, les trois premiers chefs, c'était Macedo qui avait 25 ans, Lucien Goual qui en avait à peine 20, et peut-être voire 19. Et le troisième, c'était, voilà que son nom m'échappe, un type extrêmement sympathique qui était professeur d'éducation physique et qui avait déjà 40 ans.
D'accord. Mais c'était l'équivalent des chefs de troupe de
genre. Oui, c'était les chefs de troupe. On les appelait scoutmestres, mais c'est les chefs de troupe. Donc leurs assistants pouvaient être souvent assez jeunes. Et les patrouilles, alors c'était très variable parce que Ben Powell a écrit tout et son contraire sur la patrouille. Oui, Ben Powell c'est sacré. Néanmoins, il a lui-même cherché et hésité. Après tout, le fondateur, il n'a pas forcément tout en tête dès le début. Dans certains écrits, il dit que la patrouille, autant que possible, doit être constituée de garçons d'âge uniforme. Donc, dans une troupe, ça fait des garçons de 12 ans. Une patrouille, des garçons de 13 ans, une patrouille, etc. Et le chef de patrouille fait partie des aînés, dernière année, et il est désigné par le chef de troupe pour servir auprès de la patrouille des petits, des moyens ou des grands. Bien, sachant que les plus difficiles, c'est les grands. Donc. Et par conséquent, vous changez de patrouille chaque année. Ça, c'est très 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 répandu chez les scouts de France, jusque vers 1930. Ensuite, consciemment, les scouts de France y renonceront. Vous avez un système inverse, enfin si j'ose dire, vous avez des garçons d'âge panaché, et donc c'est l'aîné qui, presque par inertie, est le chef. C'est la pratique évidemment qui est dominante aujourd'hui. Et vous avez des chefs de patrouille qui sont très autonomes. Ça, c'est ce que Ben Powell voulait. Mais vous avez aussi des chefs de patrouille qui ne sont pas du tout autonomes. Dans tous les cas, le scoutisme est très formel. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup de paperasses, beaucoup de cours d'honneur, beaucoup de conseils des chefs, beaucoup de machins, etc. Et c'est vrai qu'on joue, mais c'est un peu, on l'arrache un peu aux formalités, si vous voulez. On fait des entraînements à faire des rassemblements en carré, en rond, en rangée, enfin comme on fait au louveteau, mais on fait toujours au scout. On appelle ça des drills à l'anglais. C'est insupportable et ça prend toujours 1 ou 2 heures par sortie. On campe, mais on campe pas toujours en réalité. Dans les groupes populaires, parce qu'il est trop cher de partir à la campagne. Voilà. Dans, alors on part à la colonie de vacances de l'école ou de la paroisse, mais dans ce cas-là on campe pas, ou alors on campe juste à côté de la colonie, on prend ses repas dans le bâtiment de la colonie. Et dans les groupes bourgeois, pour une raison que nous n'imaginons pas aujourd'hui, c'est que les garçons partaient en vacances. C'est-à-dire que à l'époque les vacances étaient décalées, donc le 14 juillet ils partaient avec papa et maman dans leur château de province et ils revenaient le 1er octobre. Par exemple, quelqu'un qui est connu, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été scout avec beaucoup de goût, semble-t-il, a fait tous ses camps de Pâques et aucun camp d'été. Jamais.
Parce qu'il était en vacances.
Parce qu'il était en vacances. Hein? Donc c'est un peu un autre monde que le nôtre. Il sortait beaucoup la semaine, une fois tous les 15 jours, ce qui est normal pour un groupe de province aujourd'hui, mais très rare pour Paris. Et il pratiquait beaucoup la technique avec une progression... constante, voilà, on approprie des nouvelles techniques. Si vous il faisait des choses très dangereuses. Il partait en haute montagne pour camper l'été. C'était très à la mode dans les années 20. C'était extrêmement dangereux. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort chez les jeunes scouts de France. Une année, tous les scouts parisiens s'étaient pris d'amour pour le cirque de Gavarnie. Mais enfin, Gavarnie, ça fait 3000 mètres avec des parois à pic quand même. Donc, ils montaient avec leurs grands bâtons, leurs grands chapeaux, des godasses pas adaptées du tout. Bon. Et la diversité était donc très grande. Et souvent, les troupes, dans ces premières années, connaissaient des évolutions brusques. Parce qu'en fait, ils se regardaient les uns les autres pour savoir comment les autres faisaient. Et il y a des influences qui se croisent. Alors, pour répondre à votre question, la route n'existe pas encore. Elle sera créée au sein des scouts de France et non sans mal. Et les louveteaux sont une proposition qui n'est pas une invention de Baden-Powell, mais qui a été mise au point, certes avec l'aval et l'encouragement de Baden-Powell, par une catholique anglaise qui s'appelle Vera Barclay. Donc déjà, c'est original. Hein, c'est, la première... Première meute de louveteaux de l'histoire, c'est la première Westminster à Londres, qui est la troupe de la cathédrale catholique de Westminster. Ensuite, Vera Barclay élabore une méthode très originale, basée sur le livre de Kipling, ce qui nous paraît nous évident, mais une méthode qui se fait en France traiter de naturalisme encore pire que le scoutisme. Au moins, dans le scoutisme, on parle chevalier, tandis que dans Kipling, on parle loup, meute, etc. etc. Et toute la gestuelle que les petits garçons adorent, moi j'adorais ça, les oreilles de loup, tout ça, c'est alors vraiment, ça horrifie le curé de base. Du coup, les scouts de France naissants ont tenté de ne pas avoir de louveteaux, mais d'avoir une autre méthode pédagogique qu'ils ont appelée les genêts, qui devait ressembler, je pense, à quelque chose d'un peu proche des futures pédagogies Jeannette. Et de la vie générale, ça a été un échec total.
Non,
ceux qui savaient lire l'anglais avaient lu les bouquins de Baden Powell et de Vera Barclay, avaient créé des louveteaux chez eux, et les petits loups étaient ravis, ça marchait très bien. Donc les scouts de France ont accepté les louveteaux assez tôt. Et pour compléter le tableau, les guides naissent un peu après 1920, de l'initiative de femmes qui sont des femmes expérimentées, des mères de famille ou des célibataires engagés, qui sont toutes directrices de patronage ou de fédérations de patronage, et par conséquent, elles se créent vite et efficacement. Ces dames ont l'habitude de lutter, d'œuvrer pour les filles, elles ont d'excellents contacts dans les évêchés, si bien que le modèle existe, c'est les scouts de France, mais les guides de France, quelque part, ont plus d'expertise dans la construction institutionnelle d'une association. Donc leur naissance est rapide et efficace.
Très bien, et ben, nous pourrons évoquer dans un prochain épisode plus en détail l'histoire vraiment des scouts de France, mais merci beaucoup pour toutes vos explications sur le début du scoutisme catholique. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode de cette saison sur l'histoire des scouts de France. Merci beaucoup, mon père.
Je vous en prie.